Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Alors, personne n'a souhaité voir la nouvelle comédie avec Robert De Niro, c'est pourquoi le sommaire a un tout autre visage. Bonjour Guillaume, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Guillaume, un film d'animation.
Oui, alors avec un titre un peu particulier, hein, c'est Lupin Free ou The Third, The First, de Takashi Yamakazi.
Et toi Manu, deux films, une nouveauté puis une reprise.
Oui, une reprise, donc le très connu, hein, Le silence des agneaux de Jonathan Demme, et puis un documentaire We Are Soldiers.
Et cette reprise du film de Jonathan Demme nous donnera l'occasion de jouer un blind test. Vous aurez 5 extraits de la filmographie de ce réalisateur américain à trouver. Et puis Marine, qui n'est toujours pas avec nous, qui est un peu notre envoyée spéciale dans la capitale, eh bien, a pu voir des films en avant-première, et c'est tant mieux. Elle nous parlera de L'Enfant rêvé, film français, et puis bien d'un drame familial
horrifique,
voilà, Relique, de Nathalie Erika James. Mais on va commencer cette émission avec une comédie. Elle est française, c'est Parents d'élèves.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Bart a été sage?
Non, c'est pour la réunion de parents d'élèves.
Je pourrais jamais y être.
Peut-être que ton babysitter peut y aller?
Hein? Ah non, non.
Monsieur?
C'est elle, ta maîtresse?
C'est moi, je suis normalement une maîtresse.
Bonjour, bonjour. Vous êtes monsieur Canovage, j'imagine?
Marguet, Vincent Marguet.
Je porte le nom de ma mère.
D'accord.
J'y vais, papa. Bienvenue.
Là, bonjour, je suis son père.
Faire un film en ces temps difficiles, c'est avoir un bon casting et faute de blockbuster, réaliser plutôt une comédie. Et Parents d'élèves réunit ces deux éléments, hein. Comédie et acteurs qui ont la cote. Alors c'est la jeune garde, hein, Vincent Dedienne, qu'on connaît surtout seul en scène ou chroniqueur à la télévision et à la radio, et Camélia Jordana, qui a d'abord été connue comme chanteuse après avoir participé à La Nouvelle Star. Vincent Dedienne, alors on l'a vu peu pour l'instant, mais il va monter en puissance. Quant à Camélia Jordana, elle enchaîne davantage les rôles. Hein. Elle est au centre d'une douce comédie encore en salle, Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Alors précisons-le tout de suite, celui qui fait rire dans Parents d'élèves, c'est quand même l'humoriste Dedienne, avec sa distance feinte et son débit de parole rapide. Il interprète le rôle de Vincent, un Parisien qui est une sorte de babysitter pour animaux, gardant perroquets, hamsters et chats dans son petit appartement. Alors jusqu'au jour où sa voisine du 5e, bien trop occupée professionnellement, eh bien, lui demande de garder son rejeton qui est en CM1. Point de bascule, quand arrive la première rencontre parent-professeur, eh bien la mère demande à son babysitter de la représenter. Mais entre-temps, eh bien le garçon, qui n'a pas de père, hein, trouve bien pratique d'annoncer à tout le monde que ce Vincent, eh bien, c'est son père. Alors si l'exercice ne plaît pas beaucoup au trentenaire, l'institutrice va lui taper dans l'œil. Et ça, eh bien, ça va tout changer, évidemment. Être un père, eh bien, finalement, va devenir plutôt commode, car il y a les sorties nature, les sorties piscine.
T'as jamais dit tes parents qu'il fallait pas mentir?
Tout qui mensonge.
Vincent,
lundi matin, réunion de l'association des parents d'élèves.
Mais c'est pas obligatoire.
Qui est disponible pour le vendredi piscine? Vincent.
Moi, je fais rien. Moi, je fais pas de piscine, pas de sortie, pas de chorale.
Bon, je vous préviens, le premier qui fait une réflexion sur mon moule-bit, je le noie.
C'est donc une comédie romantique en puissance à laquelle le spectateur est convié. Elle met en relation un trentenaire adolescent qui n'a que faire de l'autorité et de la responsabilité, et puis une jeune professeure des écoles dévouée à sa classe. Réalisée par Noémie Saglio, à qui l'on doit la série Connasse, Parents d'élèves ne sort pas du lot en termes de mise en scène. Hein. Toutefois, le ton choisi est à son avantage. Hein. Il n'est pas question d'avoir un regard politico-social sur l'école, bien qu'il y ait bien une défense de l'école républicaine, mais plutôt de poser un regard sur la société en observant bien, par exemple, les parents d'élèves. Il y a le facho qui voit dans la notation eh bien, le seul moyen de s'évaluer, la bobo décalée, la mère flippée, celle qui suspecte une allergie par semaine chez sa fille. Alors, autant de personnages dont les névroses déteignent sur leur progéniture. Et on voit sans cesse d'ailleurs le fils d'un des parents d'élèves torturé et vaguement dépressif eh bien, poser les questions les plus étonnantes. Par exemple, je vais vous la poser, pourquoi glander et rien glander veut dire la même chose?
Ça veut dire la même chose.
Bah oui.
Parce que c'est... Ah oui.
Je pense qu'il faudrait demander à Alexandre le Bienheureux, en fait.
Alexandre le Bienheureux,
ouais.
Alors, tous ces personnages et même les plus tête à claque sont filmés avec bienveillance. Alors, jamais la ligne rouge n'est franchie. Nous sommes dans une comédie balisée qui se nourrit de caricatures et qui avance à un bon rythme.
65 divisé par 7.
Franchement, ça ne te servira jamais.
Hop. Yes. Un rendez-vous individuel avec la maîtresse ?
Oui, c'est pour rencontrer les parents et parler de moi.
C'est en tête à tête, ça ?
2,
4, 9, 42. C'est trop bizarre de vous voir dans la vraie vie.
Vous êtes très normal, vous êtes limite cool.
Limite.
Attention, voilà la grosse bombe !
Alors, elle est comment cette maîtresse ?
Canon. Elle a l'air compétente, quoi.
Bon. Alors, peu de surprises hein, dans le scénario qui ménage quand même quelques effets, mais au bout du compte, eh bien, on nous assène l'acceptation des différences et les impasses du mensonge. La réussite de l'entreprise tient autant à Vincent De Dienne qu'à Camélia Jordana. Chacun dans son registre, la douceur et la sensibilité pour elle, et puis cette petite arrogance et cette fantaisie pour l'autre. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez de Vincent De Dienne. Moi, j'avoue qu'il me réjouit à chaque fois à l'écran.
Je crois que je ne l'ai jamais vu. C'est simple.
Il a tourné avec... Alors, ce qui était assez amusant, c'est qu'il a tourné dans Terrible Jungle, qui est sorti cet
d'accord.
été. Et il donnait la réplique à Catherine Deneuve. Et il se trouve que le débit des deux est comparable, en fait. Parce que c'est un peu une mitraillette, quoi. Parent d'élève de Noémie Saglio est en salle depuis le 7 octobre. Eh bien, c'est aussi le cas de ce thriller amoureux sur fond de désir de paternité et de transmission dans le Jura, l'enfant rêvé de Raphaël Jacoulon.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Pourquoi vous voulez un enfant ?
Parce qu'on s'aime.
François travaille dans une scierie qu'il a héritée de son père au cœur du Jura. Il a repris cette exploitation de bois par principe, un peu par dépit, et s'est marié avec son premier amour, Noémie, avec qui il tente d'avoir un enfant. Après de nombreuses tentatives infructueuses, le couple décide de lancer une procédure d'adoption. Mais François, de plus en plus obsédé par son désir d'enfant, n'envisage pas cela comme une véritable solution. Malgré les avertissements de la conseillère qui tente de lui expliquer que l'enfant rêvé n'existe pas, il perd de plus en plus pied. Lorsqu'elle rencontre Patricia et commence à entretenir avec elle une histoire charnelle et passionnelle, elle tombe rapidement enceinte. L'étau se resserre autour du couple adultère, au cœur de ce petit village dans lequel tout le monde se connaît. François va alors devoir faire face à un dilemme et choisir entre partir avec Patricia et perdre sa vie ou renoncer à cet enfant et rester avec sa femme.
Adopter, c'est avoir un enfant.
Non, c'est pas pareil.
Et je lève mon verre aux nouvelles aventures de ma famille.
J'ai jamais connu ça. Pas comme ça.
Je suis enceinte. Tu dis rien.
On pourrait partir ensemble. Une nouvelle vie.
Et la Syrie.
Votre chiffre d'affaires est en baisse et le cours du bois augmente.
Tu veux que je fasse quoi ? Que je ferme ?
Après tout ce qu'on a traversé, je veux juste trouver le bon moment pour lui parler.
Ce sera jamais le bon moment.
J'arrive plus à le cacher, là. Je peux plus, tu peux pas lui parler, d'accord ?
Non, je peux pas.
Vas-y, maintenant !
Qu'est-ce que t'as ?
Rien. Lâche-moi.
Putain, fais pas le con.
Mais t'es pas avec moi. Moi, j'ai besoin de toi.
Non, mais le roi de la famille,
oh, ça
là,
suffit, là.
Même pas foutu d'avoir la sienne.
L'une des idées intéressantes développées dans le film est que le désir d'enfant, qui devient d'abord névrotique, puis carrément mortifère, est ici l'apanage de l'homme, alors que le cinéma français et international, jusqu'à présent, avait surtout imaginé des personnages de femmes qui veulent devenir mères en dérivant parfois à la limite de la folie, comme dans 37-2 de Benex, comme dans Une vie entre deux océans, ou encore le thriller Postpartum, qui confrontait déjà, il y a 10 ans, les deux comédiens principaux de L'enfant rêvé. Quatrième film de Raphaël Jacoulot, L'enfant rêvé offre à Jalil Lespère un très très beau rôle d'homme étranglé par les traditions et par l'obligation de la transmission, et il permet également un beau retour au premier plan pour Louise Bourgoin, qui se consacrait surtout à la télévision depuis quelques années, et surtout pour Mélanie Douté, actrice trop sous-estimée qui incarne ici un personnage de femme tout en nuances. Et puis le quatrième personnage au milieu de ce triangle amoureux, c'est la forêt du Jura, admirablement filmée, dont la présence permet de transcender le film et d'en faire plus qu'un simple thriller domestique pour accéder à une vraie poésie.
C'est quoi pour vous être un bon père ?
C'est être présent. C'est le guider dans la vie. C'est l'aimer. Je ferai tout pour lui.
L'enfant L'enfant rêvé de Raphaël Jacoulot est en salle depuis le 7 octobre, tout comme Lupin 3 ou The Third. Alors non, c'est pas un Miyazaki, mais c'est japonais et un peu plus débridé. C'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Il y a un nombre, et même deux dans son titre, donc compliqué à dire. Hein. Lupin 3, The First, soit le troisième et le premier. Et pourtant, ce héros anime les écrans petits et grands depuis plus de 50 ans au travers d'innombrables productions. Petit rappel, le personnage de Lupin III, donc petit-fils d'Arsène Lupin, a été créé par le mangaka Kazuhiro Kato, donc plus connu sous le nom de scène Monkey Punch, sans la permission des ayants droit de Maurice Leblanc. Dès sa première parution à la fin des années 60, le succès sera au rendez-vous et l'intérêt pour sa créature emblématique ne connaîtra pas vraiment d'interruption. La preuve en est avec ce dernier film, sorti pile un an après le décès de Kato. En France, on connaît surtout le personnage de Lupin III hein, pour deux films datant du tout début des années 80, c'est-à-dire Le secret de Mamo et Le château de Cagliostro, qui est aussi le premier film d'Hayao Miyazaki. Tu vois, tu parles de Miyazaki, on n'en est pas loin au final. La série télé Edgar, détective cambrioleur, qui sera diffusée quelques années plus tard, achèvera de rendre le voleur populaire, qui avait pour l'occasion changé de nom pour des raisons évidentes de propriété intellectuelle. C'était le souhait même de son créateur, hein, voir Lupin III un jour faire de la cambriole en 3D pour son prochain film. Alors, de Edgar à Lupin, troisième du nom, est-il toujours l'as des as?
Mon nom à moi, c'est Laetitia.
Alors toi aussi, tu es à la recherche du trésor?
Je partage avec toi toutes les informations que j'ai pu récolter jusqu'ici, et toi, en échange, tu m'aides à résoudre le mystère du journal de Bresson. Bonne chance, Lupin.
Le seul objet qu'Arsène Lupin, en son temps, n'avait pas réussi à voler, c'était le journal de Bresson.
Je vais réaliser le rêve de mon grand-père.
Alors Lupin III est de retour hein, de façon jazzy dans le pays de son aïeul, mais les années 60 ne vont pas être de tout repos pour notre héros. Il va être confronté à des dangers que même son légendaire grand-père n'a pas pu surmonter. Le livre de Bresson, un mystérieux trésor, a été dérobé et s'il venait à tomber entre de mauvaises mains, la face du monde pourrait en être changée à tout jamais. Lupin III va donc rassembler ses alliés habituels et tous ensemble, ils vont aider la jeune Laetitia, elle aussi prise dans l'engrenage, à rétablir le bon ordre des choses. On voit donc très vite que ce nouveau chapitre des exploits du cambrioleur exploite tout ce qui fait le sel d'une aventure à l'ancienne dans le but de faire le bonheur des jeunes comme des plus vieux spectateurs. Cette formule rodée comporte pêle-mêle un pari de cartes postales, de l'exotisme avec des destinations ensablées, des méchants défenseurs d'un ordre fasciste qui veulent remodeler le monde à leur image, des courses-poursuites endiablées sur terre, mer et dans les airs, un retour vers le passé pour mieux sauver le futur et même un semblant d'amourette impossible qui flotte dans les airs. N'en jetez plus toutes les bonnes, hein. Cases sont cochées pour 1h30 de péripéties sans aucun temps mort. Quand on vous dit que c'est le roi de la cambriole.
Vous comptiez mettre la main sur les trésors du journal de Bresson avant nous?
Ouvre les yeux, jeune fille! Tu vas assister à l'anéantissement de Lupin et de sa clique!
S'il y a une chose à laquelle hein, Lupin III The First fait indéniablement penser, bah c'est indéniablement au cinéma de Steven Spielberg. C'est normal car le réalisateur Takashi Yamazaki confesse avoir trouvé sa vocation dans le milieu des effets spéciaux après avoir découvert, enfant, des spectacles comme celui du mémorable Rencontre du Troisième Type. On y retrouve d'autres allusions appuyées hein, à la filmographie du maître et en particulier à la première et à la troisième aventure d'Indiana Jones. Jugez plutôt. Il est question de récupérer un artefact mystérieux qui, s'il tombait entre de mauvaises mains, deviendrait une arme de destruction massive. Ces mauvaises mains, ce sont celles des nazis avides de redorer le blason belliqueux d'un Troisième Reich porté sur l'occulte, comme dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Cette quête, qui est à la fois alimentée et parasitée par les actions des anciens, est le fossé des générations où l'on marche sur les traces de son père ou son grand-père, y compris à l'aide de flashbacks, bah tout cela évoque fortement la scène d'introduction et les séquences familiales de La Dernière Croisade. Et bien sûr, l'insertion de Lupin dans la 3D nous renvoie aux aventures de Tintin, film pour lequel Spielberg avait opté pour la performance capture afin de marier BD sur grand écran et animation d'ampleur et de s'autoriser en même temps toutes les fantaisies qu'une caméra non physique permet sur les sujets animés aux traits bien particuliers. Et en parlant de traits, c'est extrêmement amusant hein, de reconnaître ceux du Belmondo jeune hein, dans ceux de Lupin III, le modèle sur lequel s'est penché Monkey Punch, comme le fera d'ailleurs Buichi Terasawa pour le cultissime personnage de Cobra à la fin des années 70. Ce ne sera pas la seule référence hein, au cinéma français que vous pourrez trouver, car on se doute que le livre de Bresson fait bien évidemment penser au cinéaste de Pickpocket, hein, lui aussi un film mettant en scène un voleur. La boucle, elle est bouclée. Lupin 3, donc The First, c'est une très belle découverte ou redécouverte de ce personnage emblématique de l'animation japonaise qui a mis les petits plats dans les grands pour dérober à nouveau l'adhésion du monde entier. Et si le spectacle est bien évidemment tout public, franchement, on appréciera en ces temps de puritanisme un peu mortifère des petites touches subversives distillées à droite et à gauche, dont un léger érotisme gentiment récurrent et toute une scène de dérision tournant autour d'un certain dictateur moustachu. Il est sûr que ce n'est pas dans un film d'animation français et surtout américain que l'on aurait éventuellement restitué aussi fraîchement cet esprit décomplexé des années 60. Alors merci Lupin pour la piqûre de rappel.
Et bien voilà, après une comédie, un thriller amoureux, un film d'animation, et cette fois-ci, on va se payer une tranche d'anthropophagie.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Le film avait fichu la frousse à bon nombre de spectateurs en 91. Le Silence des agneaux ressort en salle, Manu.
Fera peut-être moins peur aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a un peu 30 ans qui sont passés et un nombre incalculable de films qui ont, on va dire, pompé intégralement le film de Demi. Alors, il ne s'agit pas d'une ressortie pour un 30e anniversaire, puisque Le Silence des agneaux a 29 ans. Alors, on sent bien là un peu le désarroi des distributeurs face à l'absence de blockbuster afin de trouver des solutions pour attirer le public dans les salles. Alors, revoir ce film culte permet néanmoins de remettre en perspective le projet initial de Jonathan Demme, alors cinéaste très mésestimé, à mon sens, auteur de quelques merveilles comme Meurtre en cascade ou Dangereuse sous tout rapport. Alors, il adapte donc le second volet des romans cultes de Thomas Harris après Dragon Rouge, avec comme fil rouge la figure donc de Hannibal Lecter. Et c'est bien ce qui déçoit en premier lieu dans Le Silence des agneaux. La présence très théâtrale d'Anthony Hopkins n'impressionne plus. Elle fascine par intermittence, mais fait également sourire parfois. Le jeu forcé du comédien a pu faire illusion lors d'une première vision, mais ne passe pas tellement le cap des années, car depuis, on a trop souvent vu le numéro bien rodé du comédien anglais et surtout un nombre incalculable de gens qui ont imité sa performance. Et ça pêche un peu aujourd'hui. Mais au fond, c'est pas grave, car Demi n'a des yeux que pour son héroïne, Clarisse, qu'il filme avec une empathie et une émotion intacte. Il faut le dire aujourd'hui, Le Silence des agneaux ne s'intéresse qu'en creux aux deux psychopathes d'opérette qui ne font qu'avancer l'intrigue sur un plan purement fictionnel. Le vrai cœur du film est bien le portrait magnifique d'une jeune recrue du FBI qui doit trouver sa place dans un monde quasi exclusivement d'hommes où les femmes, alors on est en 91, sont considérées, surtout dans le cinéma de genre, comme des victimes. Alors il faut voir Clarisse toute menue entourée d'hommes dans un ascenseur pour ressentir l'oppression masculine. Jodie Foster est d'ailleurs géniale dans ce thriller retors qui bénéficie quand même de quelques séquences mémorables comme l'évasion spectaculaire de Lecter ou la découverte finale du serial killer. Mais le plus impressionnant reste la mise en scène de Demi d'une rigueur constante, jamais parasitée par des plans de coupe ou des plans larges inutiles. Il sert de très près ses personnages, jouant constamment avec les gros plans. C'est un film de gros plans, c'est constant, et c'est quelque chose qu'on voit assez rarement aujourd'hui dans le cinéma américain. Alors tout ça insuffle une vraie tension, même si le film manque parfois de troubles, de perversité. Mais parce que je pense que Jonathan Demme est un cinéaste assez humaniste, c'est quand même un film à voir aussi. Enfin, pour la musique, qui est absolument géniale, de Howard Shore. Et le directeur de la photographie, Tech Fujimoto, qui est le collaborateur régulier du cinéaste.
Eh bien, avec la filmographie du cinéaste, on va pouvoir jouer un blind test. C'est le blind test de cette émission. 5 extraits à écouter. Il faut évidemment deviner les titres. J'espère que vous avez bien révisé. Voici le premier extrait.
Une minute. Je ne veux pas te voir jouer pour de l'argent avec tes copains.
C'est Tony Junior qui a eu l'idée.
Bon, alors il n'y a plus rien à dire. Tu sais pas faire marcher ta tête tout seul.
Eh, me dis pas que t'as joué au bonneto avec les autres gosses.
Si.
Combien est-ce que tu leur as pris?
$12, pas.
C'est pas mal.
Merci, pas.
Oui, merci, Frankie. Et moi qui essaie de l'élever correctement.
Oh, alors c'est rien qu'un gosse, Angela.
Mais qu'est-ce que tu cherches, Frank?
Mon revolver. Où est mon revolver?
Mon Dieu, Joe, donne-moi ça.
Ça a été trouvé, Guillaume.
Oui, c'est Veuve, mais pas trop.
Veuve, mais pas trop. Married to the Mob, mariée à la foule, en fait. Enfin, c'est ça le titre original. Film de 88, un agent du FBI qui veut infiltrer une famille de la mafia. Eh bien, sa chance, c'est Angela DeMarco qu'on vient d'entendre, qui veut rompre avec le style de vie qu'elle avait auprès de son mari gangster, qui est froidement assassiné. Seulement 83 097 entrées en France. C'est peu, c'est peu. Et voici un nouvel extrait.
On dirait que quelque chose s'est emparé de vous ces derniers temps, je ne sais pas. Une espèce de confusion, de flou artistique.
Et pas mal de gens vous trouvent un comportement caractériel.
Ah oui. Qui dit ça?
Moi.
Excusez-moi. Est-ce que vous me virez?
Je verrais plutôt les choses ainsi. Votre avenir au sein de notre cabinet n'est plus du tout assuré. Et nous sommes d'avis qu'il serait injuste de vous garder alors que vos perspectives sont limitées. Voilà.
C'est tout à fait courtois. Ça a été trouvé.
C'est Philadelphia.
Eh oui, Philadelphia, de film de 93, premier film hollywoodien traitant du sida avec Tom Hanks en victime et Denzel Washington en avocat plutôt homophobe mais prêt à faire respecter la loi. 2 741 445 entrées en France. Voilà, c'est un des plus gros succès de Jonathan Demme avec lequel on joue pour un blind test. Troisième extrait.
Tu es une chic fille. Avoue que t'as un petit problème, mais t'es une chic fille. Et tu es rempli de possibilités. Mais je ne suis pas de taille à supporter tout ça, c'est trop pour moi. Je vais reprendre mon portefeuille et sauter dans le bus et retrouver ma petite vie bourgeoise sans surprise avant qu'il ne soit trop tard.
Charlie, je suis désolée. Je savais pas que ça avait cette importance. Excuse-moi, Charlie.
Oui, bien sûr, je t'excuse.
Demain matin, tu vas te réveiller et tu seras toujours Charlie Driggs, non ? Et tout ça, ça sera plus qu'un souvenir. Alors profitons encore de la soirée. Et demain matin, il n'y aura plus de Lulu.
Ça a été trouvé, Manu.
C'est dangereux sous tout rapport.
Oui, film de 86 qui s'intitule en version originale Something Wild.
Qui est avec... un morceau des Talking Heads d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Ah, d'accord. Jeff Daniels et Melanie Griffith et Ray Liotta. Une comédie sentimentale entre un homme d'affaires et une jeune fille délurée qui tourne au thriller quand le mari psychopathe refait surface. 176 390 entrées en France. Allez, c'est le double d'entrée pour ce film-là.
Non, mais je suis la seule personne de cette réunion à avoir pris connaissance des rapports de la NSA.
Je les ai lus également.
Alors vous êtes au courant. Vous êtes au courant que nous allons bientôt connaître un autre cataclysme, probablement nucléaire, sur notre sol.
Oh, Ellie, vous dramatisez.
Et
vous
il ne viendra pas d'un terrorisme aveugle, mais de l'alliance secrète de nations de toute évidence déçues qui se sont laissées emporter par tous ces Jordan, le seul, l'unique qui croit que tous les êtres humains sont foncièrement bons et que notre pouvoir est, je ne sais pas, quelque chose de mauvais, de honteux, dont on ne devrait pas faire usage. Mais il ne faut pas se leurrer, les Américains ont peur. Ils savent que quelque chose se prépare, ils sentent venir le danger. Alors soit on choisit de leur servir de la merde en leur disant que c'est du sucre, soit on choisit de les armer.
Ça a été trouvé, Manu.
Et c'est Un crime dans la tête, le remake du film de John Frankenheimer.
Oui, film de 62, alors 2004 pour Un crime dans la tête, donc de Manchurian Candidate. Donc le rôle de Frank Sinatra dans le film de Frankenheimer a été repris par Denzel Washington dans celui de Demme. Donc c'est une drôle de machination autour d'une élection présidentielle américaine sur fond de traumatisme de guerre. 350 000 entrées en France. Dernier extrait de ce blind test.
Essaie de vivre ne serait-ce que 5 minutes sous le contrôle permanent de papa et dis-moi ce que t'en penses.
Quel contrôle permanent ?
Non mais tu plaisantes. Carole, où elle est ? Ne dors pas ici, dors ici, avale ça. Oh, laisse, je vais te conduire. Non, je t'assure, ça tourne à l'obsession. Non, mais attends, comme si c'était un scoop. Oh, mais t'es peut-être pas au courant, Kim ? Oh, je suis sûre que si. Tu vois, la seule façon de communiquer réellement avec papa, c'est d'engager la conversation en glissant ton nom, Kim. T'as des nouvelles de Kim ? Comment va Kim ? Là, il se réveille. Ça le fait réagir instantanément comme une alarme.
Ça a été trouvé, Manu.
Et c'est Rachel se marie. Je crois que c'est un de ses derniers films de fiction, il me semble. Et après, il a fait encore des documentaires.
Et oui. Film de 2008 avec Anne Hathaway qui revient dans sa famille lors d'une permission de sa cure de désintoxication pour le mariage de sa sœur Rachel. Et donc, elle règle leur compte, on s'en aperçoit ici. C'est un film très bavard, mais qui n'a pas remporté de succès en France. 50 860 entrées et quelques. Voilà, ainsi s'achève ce blind test consacré à la carrière de Jonathan Demme. On passe à un drame familial, une descente dans la psyché et dans une maison en putréfaction. C'est Relic et c'est Marine qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Vous voyez que c'était par là qu'il était entré ?
Qui ?
Celui qui rentrait dans la maison.
Maman, qu'est-ce qu'il y a ?
Il est là, il est sous mon lit.
Non, il n'y a rien sous ton lit, maman.
Vérifie pour moi.
Trois générations de femmes se retrouvent ensemble dans une maison perdue en pleine forêt. Kay et sa fille Sam sont venues retrouver leur grand-mère Edna qui semble avoir disparu. Assez âgée et très diminuée, la vieille dame revient sans se rappeler de rien. Très vite, des événements étranges surviennent au sein de la maison.
Du thé ? Tu te souviens où tu étais, maman ?
J'imagine que je suis sortie.
C'est quoi ça?
Elle était dans la propriété quand tes grands-parents en ont hérité. Apparemment, il avait pas toute sa tête.
Tu vas pas la mettre à l'asile quand même?
Elle peut plus vivre toute seule maintenant, Sam. Elle a besoin d'être surveillée.
Tout droit venu d'Australie, Relique a fait le tour des festivals, notamment Sundance, avant d'arriver chez nous, desservi, il est vrai, par un pitch et une bande-annonce extrêmement convenue. Car Relique est bien plus qu'un énième film d'horreur à base de possession ou de maison hantée, c'est une très belle allégorie de la vieillesse et de la démence. Ici, la vieillesse n'est pas un naufrage, mais carrément un cauchemar. Et en assumant son rythme extrêmement lent, Relique nous propose un voyage mental sinueux et profondément dérangeant. C'est la première réalisation de la jeune réalisatrice Nathalie Erika James. D'ailleurs, on reconnaît que le film a été fait par une femme au fait que les comédiennes restent habillées, même au cours du climax du film. Personne ne finit à poil. La cinéaste australienne opte ici pour des plans contemplatifs et oppressants au sein d'une maison devenue davantage un personnage qu'un simple décor. Les clichés auxquels on s'attend au détour de chaque scène sont savamment évités. Aucun jumpscare ne vient nous faire sursauter ici. En revanche, de très légères intrusions d'ombre dans le cadre obligent le spectateur à rester sans cesse aux aguets en se demandant d'où adviendra le danger. Le final du film, on ne peut plus symbolique, parvient très étrangement à concilier body horror et véritable émotion sans jamais tomber dans le ridicule. Malsain à souhait, porté par une photographie ultra picturale, Relique nous prend par surprise pour s'imposer comme l'un des films d'horreur les plus intéressants de 2020.
Cette maison me semble étrangère.
Relique est en salle depuis le 7 octobre. C'est aussi le cas de We Are Soldier. On se bat dans la région du Donbass et c'est le portrait de trois soldats blessés dont tu nous parles, Manu.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Alors, portrait condensé en une heure à peine de trois soldats ukrainiens blessés au combat, We Are Soldiers frappe par sa concision, la précision du geste et de l'observation dont fait preuve la jeune réalisatrice Svitlana Smirnova. Alors, les premières images baignant dans une lumière un peu esthétisante laissent craindre une vision plus sentimentaliste qu'empathique envers les rescapés de la guerre du Donbass qui a débuté donc en 2014 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors, on ne va pas rappeler les faits, mais le film raconte en arrière-plan le conflit qui oppose donc les séparatistes ukrainiens et les Russes à travers le témoignage vibrant de véracité de trois volontaires représentant chacun trois générations, trois milieux sociaux et trois régions différentes. Alors, il y a Dmitro Trompak, Anatoly Fativ et Oleksiy Sokolovski, alors qui sont donc soignés à l'hôpital militaire de Kiev. Alors, ils se rétablissent, ils végètent un peu, réfléchissent sur le sens du conflit et surtout envisagent un avenir qui ne sera plus jamais comme avant. We Are Soldiers se pose moins comme un pamphlet à charge contre une guerre qui s'éternise que comme un film sur la réparation. Les trois individus évoquent certes à travers des propos édifiants l'horreur et la brutalité du conflit, mais ne semblent étrangement pas regretter ce qu'ils ont fait. Le plus âgé des trois, Anatoly Fativ, 55 ans, est un ingénieur, un homme cultivé, d'une nature joviale. Il a perdu donc l'usage de ses jambes en voulant désamorcer une mine. Alors il s'en amuse même et assure sur un ton ferme que si c'était à recommencer, eh ben, il retournerait sur le terrain. Ce qui peut presque nous choquer en fait. Alors Oleksiy, lui, Sokolovski, 37 ans, deux enfants. Il a aussi perdu l'usage, alors pas des deux, mais d'une seule jambe. Il évoque très crûment ce qui lui est arrivé. Alors lui, il remet un peu en question l'image fantasmée de la guerre et de l'héroïsme. Son accident lui est arrivé très vite. Il est arrivé direct sur le front et il est revenu blessé, en fait. Et enfin, le plus jeune, Dmitro Trompak, la vingtaine, lui a été gravement blessé au ventre et à la jambe. Mais la rééducation lui donne espoir. Alors, le cœur du film est bien dans cet espoir, dans l'après. Comment se reconstruire quand on a vécu un traumatisme, que l'on revient diminué physiquement d'une guerre que l'on a idéalisée. Alors, Svitlana Smirnova porte sur ces hommes un regard distancié, mais plein de compassion. Elle observe avec beaucoup de justesse leur comportement au quotidien, montrant tout de même une soif de rebondir, une appétence pour la vie. Alors, en dépit d'un sujet douloureux et déprimant, We Are Soldiers ne plombe pas le spectateur, ne porte nul regard condescendant sur ces individus qui ont choisi l'engagement. Alors, rien d'étonnant au vu du CV de la réalisatrice qui, avant d'être cinéaste, exerce la fonction de kinésithérapeute dans cet hôpital. Alors, son manque d'expérience, on va dire, dans le domaine du documentaire est largement compensé par la nature même de sa profession qui a pour but d'aider les autres. La caméra n'est jamais intrusive, alternant intelligemment plan large sur les handicapés physiques en train de se distraire ou de se rééduquer, avec un filmage plus serré, plus près des visages, lorsque les trois Ukrainiens interviennent sur leur ressenti. Alors, par la manière dont la parole circule librement, une confiance palpable entre l'équipe du tournage et ces hommes meurtris s'installe. Elle est aussi soutenue par un travail formidable de son monteur, Nicolas Desmaisons, qui parvient à donner un rythme idéal, à couper les scènes au bon moment. Alors, malgré sa courte durée, ce documentaire qui a été tourné en un mois, la réalisatrice prend son temps. Elle n'enchaîne pas les interviews à un rythme soutenu, ponctué de flashs d'actualité. Les rares images d'archives agissent comme un rappel, un effort de mémoire, donc rien d'affreux n'est exhibé à l'écran. La réalisatrice évite les pièges du documentaire choc, du film à sensation que le sujet amenait naturellement vers lui pour livrer, au contraire, une œuvre sobre et captivante, empreinte avant tout d'un message, je dirais, d'espoir, en fait, parce que c'est vraiment l'après qui intéresse et pas tellement le conflit.
Voilà, We Are Soldiers est dans les salles depuis le 7 octobre.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
C'est fini pour aujourd'hui. Cinérama revient la semaine prochaine avec à nouveau une comédie, Guillaume.
Oui, 30 jours max de Tarek Boudali.
Et puis toi, Manu ?
Pas vraiment une comédie, mais une ressortie d'un film de John Carpenter, Assaut.
Et puis bien d'autres choses, à la semaine prochaine.